pouvez d'abord poser des questions sur ce que Marianne et moi avons dit, mais peut-être lancer une question de débat qui renvoie à une question que tu as évoquée ce matin, Bruno, et un peu aussi à celle dont tu parlais. C'est, donc je disais, notre crainte, c'est que l'associatif va devoir s'autofinancer, enfin que les pouvoirs publics vont exiger une part d'autofinancement pour conditionner l'octroi de subventions. Alors, on pourrait imaginer que l'autofinancement, c'est une forme d'indépendance, d'autonomie, mais voilà, le débat que je voudrais lancer, c'est est-ce qu'il vaut mieux être autonome vis-à-vis de l'État en se prostituant sur le marché,
ou échapper
au marché en devant respecter
les notre une troisième voie.
Et alors la troisième voie, effectivement,
la troisième voie, c'est de dire aujourd'hui quelle reconnaissance on a de tout l'apport en ressources apporté par le bénévolat, la mise à disposition gratuite, enfin, tout ce qui relève justement de ce qui n'est pas comptabilisé. Il faut absolument qu'on se batte pour faire reconnaître ça à part entière. En France, c'est en partie reconnu par le plan associatif, mais quand tu vas devant une collectivité et que tu demandes une demande de subvention, on ne retient pas la part correspondant au bénévolat dans le montant subventionnable. C'est-à-dire que du coup, c'est pas un cofinancement. C'est des trucs que tu fais en plus, mais ça compte pas. Et ça, c'est grave. Or, si on valorise tout le temps consacré bénévolement, etc., ben, en termes de cofinancement, des fois, on arrive à des choses énormes. Moi, je connais pas mal d'associations qui dépensent, qui ont plus de moyens liés à la participation bénévole, etc., que de moyens financiers réels. Et pourtant, elles sont remises en cause sur des financements à 3 000 euros, 4 000 euros. Alors que quand tu comptabilises ce qui est apporté en ressources humaines, en moyens, c'est beaucoup, c'est 10 fois ou 20 fois plus élevé. Et pourtant, on les juge que sur le trébuchant.
Et alors, évidemment, l'économie sociale et solidaire, le travail des communs comme manière de recréer une autonomie, de pouvoir répondre à ses besoins de manière autonome sans passer par ni le marché ni l'État. Mais ça.
Alors, je parlais de ce que je connais, je sais qu'au niveau des financements, il y a une espèce de combat en ce moment qui est mené par des médias indépendants vis-à-vis des médias mainstream. Justement, cette question est vachement posée. Comment arriver à avoir des subventions publiques qui permettent une pérennité et une continuité du service, tout en pouvant rester indépendant en ayant une part de privé, mais tout en ayant une indépendance de part de privé, en faisant en sorte que ça n'augmente pas trop leur part. Ils sont en ce moment sur du, je dirais, 30% privé, 30-35% public, et après le reste en marchandisation, parce qu'ils sont obligés de diminuer. Et je rappelle qu'il faut que je fasse attention, c'est des fois je donne l'impression de dire des choses fortes, mais c'est souvent un questionnement plus qu'une réponse. Moi, ce qui me pose question, c'est que marchandisation, pour moi, c'est un outil. Et pourtant, j'entends beaucoup de moralisation de ce terme. En soi, ça dépend ce qu'on a à vendre. C'est-à-dire que si on vend l'idéal de la construction communautaire et la construction d'un tiers-État au travers de ce qu'on va gagner et ce qu'on va redistribuer au sein de notre association, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Le problème, c'est la perversité de la globalité des problématiques. Parce que, par exemple, il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup, c'est, par exemple, sur les petites associations, l'influence des médias, qui, eux, sont très marchandisés, sur notre activité. C'est-à-dire que quand on est un groupe... Là, j'avais le cas sur mon lieu Cantona, on a voulu faire venir des journalistes, ils sont venus, mais quand on a voulu les faire revenir, notamment France 3 ou des choses comme ça, ils ont dit, ouais, mais le problème, c'est que c'est pas si éclatant, vous ne battez pas avec la police, on a un truc non violent, donc c'est un peu le but. D'ailleurs, ils se sont trompés dans l'article, ils ont dit qu'on était violent. Et en gros, l'idée, c'était de dire qu'il faudrait qu'on ait une star, qu'on fasse des coups d'éclat dans notre activité pour avoir de la visibilité. Sauf que pour des groupes anti-institutionnels ou pour des petites associations, la problématique est la même, c'est la visibilité qui permet l'expansion, si on n'a pas les fonds tout de suite. Donc du coup, en fait, je pense que c'est multidimensionnel, la problématique. Mais par contre, elles vont toutes dans le même sens. C'est celle du contrôle et d'une forme d'annulation de la partie démocratique des associations pour entrer dans une efficacité qui permette leur survie. D'autant plus que la part militante dans les associations ne fait que baisser, tout comme la part de votants, comme toute la part de gens qui ont recours aux droits, etc.
On pourra peut-être revenir sur ce qu'on a, les définitions qu'on a mis, mais il me semble que tu confonds économie et marchandisation.
Eh bien, c'est en fait c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous reprocher. Donc c'est rigolo. Du coup, je pense qu'il y a un nœud, il y a un nœud au problème, justement. C'est que pour moi, marchandisation et économie, au niveau du structure, enfin, la marchandisation, elle n'est pas la destination finale du libéralisme. On a toujours fait de la marchandisation. On n'a pas attendu le libéralisme. Je vous laisse quand on parle avec plaisir.
Non, parce que c'est pas le, je veux dire, une intervention unilatérale. Ça fait partie du groupe.
Oui. Et du coup, sur la marchandisation, il est...
Non, je voulais dire que le marché n'a pas toujours été le marché capitaliste.
C'est ça, oui. Le marché a existé avant même l'invention du capitalisme, finalement.
Il existait même avant l'invention de l'argent.
Mais oui. Parce qu'en fait, c'est en ça qu'il est réel, c'est l'idée de l'autogestion, de quelque chose, de force qui se cherche et qui finissent par se rejoindre.
Mais marché ne veut pas dire marchandisation.
Oui,
c'est très différent.
Oui, mais alors au niveau des médias, alors peut-être que vous me confirmez mon erreur, mais pour moi, la marchandisation, c'est le fait d'écrire des articles qui seront visibles. Et donc d'être dans un intérêt de visibilité, parce que c'est ça qui va rapporter des sous, par exemple, aux gens qui sont sur YouTube. C'est-à-dire que s'ils sont visibles, il y a des gens qui regardent les pubs et YouTube leur retrocède une part de leurs bénéfices. Donc du coup, il y avait une forme de marchandisation de leurs articles où ils sont obligés de les préformer à une activité courte, par exemple, avec des mots pas forcément trop compliqués ou avec une partie imagerie qui serait efficace. Donc il y a une part de marketing qui rentre dans leur projet final. Mais après, du coup, c'est très bien.
Je voudrais
bien
pour justement sur la définition de marché, effectivement, en fait, il existait avant le néolibéralisme. Ça, c'est une réflexion aussi que je pense moi dans la vie de tous les jours, des chercheuses. C'est qu'effectivement, le marché, si on considère comme pas naturel, du coup, une institution, effectivement, il y a des marchés qui ont préexisté au néolibéralisme, mais le néolibéralisme lui donne une définition particulière au marché. Et justement, là, je faisais un peu l'exercice en vous écoutant de retrouver un peu les vecteurs de définition du marché, et en fait, on retrouve à travers ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, il y a les quatre grands critères du marché néolibéral, et qui se recoupent un peu avec l'évaluation d'impact social et tout ça, puisque si on reprend les quatre critères du marché, c'est en gros, il y a une homogénéité du produit. Et clairement, on voit finalement avec le développement de l'évaluation d'impact social, on rend comparable des activités complètement différentes. On homogénise finalement l'activité associative, et on la rend comparable avec l'activité du secteur privé lucratif, ou l'activité publique. Par exemple, c'est un critère qu'on retrouve en fait dans la définition du marché néolibéral. Deuxième critère du marché néolibéral, c'est que on considère qu'il y a une atomicité des agents, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité des agents, beaucoup d'offres, beaucoup de demandeurs, et il y a une libre circulation, donc une libre entrée, une libre sortie. Et là, c'est pareil, toutes les discussions autour des nouveaux entrants, des entrepreneurs sociaux qui viennent aussi sur l'action associative, finalement, qui alimentent un peu ce marché, rentre en concurrence avec les associations, c'est aussi, je trouve, un vecteur du marché néolibéral. Et le dernier élément de définition du marché néolibéral, c'est, comme j'ai dit, c'est aussi la transparence. Et là, de nouveau, l'évaluation d'impact social, je trouve, participe de cette condition de transparence, puisque quand on évalue notre impact social, on rencontre notre résultat. Du coup, on est transparent sur ce que l'on produit, et c'est ce qui permet aussi de structurer ce marché. Du coup, en fait, je pourrais monter les deux là, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, madame. Il y a d'autres types de marchés avant, mais en tout cas, le marché tel qu'il est défini aujourd'hui dans le néolibéralisme dans lequel on s'inscrit, il y a quand même ces quatre grands vecteurs de définition qui se recoupent avec l'évaluation de l'impact social, notamment.
Il y avait un monsieur.
D'accord. Oui,
effectivement, il y a des marchés qui préexistaient, mais il y en a d'autres non. Dans la mesure où je voudrais dire que les associations sont des gens, des structures qui vont repérer les besoins. Hein, je prends par exemple les besoins au service aux personnes. Hein. Donc ils vont les repérer, ils vont les expérimenter, ils vont travailler à faire en sorte que ça soit quelque chose qui existe et qui soit rentable. Et là, on voit arriver, effectivement, du coup, tout le secteur lucratif et qui s'empare de ça. Alors, on le voit très bien entre tous les EHPAD qui sont montés à partir effectivement de l'émergence des aides aux personnes, hein, du coup qui sont maintenant des industries, hein, de l'or blanc, où effectivement c'est plus rentable que n'importe quelle industrie, on est à 10%, on achète une chambre d'un EHPAD, on investit, etc. Tout ça c'est quand même venu d'un repérage de tout un chacun, mais aussi en association, par rapport aux besoins qu'on est capable, nous, en tant qu'humains, parents, etc., de faire émerger. Et jamais, ça revient en considération, on fait émerger à nous maintenant les choses rentables, à nous, le secteur lucratif sera beaucoup plus compétent là-dessus. Quoi. Alors, on le voit, hein, où ça va, etc. Avec, et puis, le fait que du coup, cette partie-là de la ressource ne va pas, je dirais, au personnel, aux gens qui dans le marché, mais retourne aux investisseurs. Alors, on a complètement, enfin, moi, avec les EHPAD et tous ces trucs-là, on a la ligne, hein, carrément, d'un travail fait par la société civile, repris par la société industrielle. Voilà.
Oui, je vais dans le sens de. Sur la petite enfance, président de crèche et une société coopérative qui gère de l'enfance et de la petite enfance. Et c'est, voilà, c'est le secteur concurrentiel, effectivement. Donc, c'est intéressant de voir. Les quatre critères du néolibéralisme, l'atomicité des agences, c'est les micro-crèches maintenant qui apparaissent sur le territoire, c'est plus des accueils collectifs, et donc avec des élus qui sont plus regardants sur le modèle économique et sur pourquoi ces crèches, la CAF qui finance l'achat de locaux en partie. Et donc voilà, on a c'est typiquement ça, hein, le secteur public et associatif qui recule fort sur ces questions de petite enfance, grand âge, ou de loisirs des enfants jeunesse. Quoi. Tout le secteur associatif de l'éducation populaire est mis en concurrence aussi. Et...
Acheter des places dans les écoles.
Dans les centres sociaux.
Oui, mais moi je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui pourrait être un autre enjeu, c'est-à-dire qu'il n'y apparaît pas simplement le secteur associatif qui reculerait face à un secteur beaucoup plus marchand, mais sur le fait même qu'on puisse en arriver à un moment donné à un risque de disparition complet ou de transformation du secteur associatif. Je pensais aux sociétés à objet social dans un article, par exemple pour l'introduction de la question des contrats à impact social en France, il y a une commission qui s'est réunie sous l'égide d'UCSIBIL et qui avait fait un rapport en lien effectivement avec le G7 qui avait lancé au niveau de l'Europe les contrats à impact social. Le rapport CIBIL dit dans son article, que je pense être le 11, la possibilité d'avoir des sociétés à objet social, SOS, non pas comme le groupe, mais sociétés à objet social. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait une capitalisation de l'association. Les financeurs viendraient directement prendre le contrôle de la partie effectivement rentable de l'association, et non pas simplement financer une opération, et il n'y resterait plus qu'une association groupon. Et le reste, ce serait effectivement une partie qui pourrait être vendue, spéculée, titrisée, c'est-à-dire mise en termes effectivement d'obligations ou d'actions. On va prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Le secteur sportif professionnel actuellement, si vous prenez votre club de football tout à fait préféré, actuellement il reste une association Croupillon qui va gérer les féminines et les jeunes jusqu'à 14-15 ans, et les apprentis et les professionnels vont appartenir à un entrepreneur. Et cet entrepreneur, selon que le club progresse ou pas, peut effectivement faire des bénéfices à la revente ou à la revente des joueurs. Et donc, c'est ce qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'actuellement, on pourrait avoir, ne serait-ce que dans le secteur de l'action sociale, une ex-association de l'université à objet social qui pourrait dire à un moment donné, mais je vaux plus parce que j'ai fait beaucoup plus d'actions rentables par l'intermédiaire des contrats à impact social. Et donc, j'ai une certaine valeur qui peut se titriser, qui peut se mesurer, qui peut se revendre. Voilà, c'était dire, ce n'est pas simplement les contrats à impact social, mais c'est la transformation même à terme qui pourra être celle des associations quelque chose. Alors, c'est prospectif, et on le sait, le capitalisme procède par essai et erreur, mais la ligne de crête pourrait être celle-là, c'est-à-dire à quel moment on aurait non plus simplement un recul du fait associatif, mais le fait de l'associatif qui disparaîtrait au profit, effectivement, de sociétés à impact et à des sociétés culturelles, solidaires, Dieu nous prête vie à tous, nous nous retrouverions peut-être sans plus aucune association.
La loi Pacte a déjà...
Et il y a déjà la main fiction.
Oui, avec l'entreprise à mission, ça existe en sens.
Qui serait donc, on peut considérer non simplement comme un existant en soi, mais comme une marche, un petit caillou du petit poussé pour arriver à ce futur, pour que durant la deuxième partie du XXIe siècle, voilà, le fait associatif ne soit plus qu'une lubie complètement passée.
Moi, je me demandais finalement quelle est la différence entre la philanthropie et puis ça. Parce que la philanthropie, c'est, comment il s'appelle, Bill Gates qui fait des associations pour les petits-enfants en Afrique, etc. Pendant ce temps, il met de l'argent, il paye pas ses impôts, donc il fait de l'évasion fiscale, etc. Il n'y a pas de différence, si on réfléchit bien, ça me paraît.
Pour moi, il y a une différence assez importante, c'est-à-dire que la philanthropie, alors par la défiscalisation, etc., effectivement, c'est aussi une manière de rentabiliser. Voilà. Mais par contre, sur l'action associative, pour moi, il y a une grosse différence dans le sens où l'investissement à impact social, elle vient vraiment mettre un carcan sur l'action associative et elle pose plein de questions en termes de pratiques associatives, et notamment dans tout le champ social, parce que ça va, il y a des contrats à impact social, d'investissement à impact social dans tout le champ social, ça va vraiment extrêmement cadrer les pratiques et ça va avoir des répercussions très importantes sur les pratiques, aussi bien des acteurs associatifs que des travailleurs sociaux, etc. Dans la philanthropie, il y a des contrôles évidemment, mais ils ne sont pas poussés à ce point-là.
Mais la philanthropie avait existé aussi à un moment où des associations avaient moins d'impact, existaient plus. Au XIXe siècle, en fait, la bourgeoisie, elle s'est dédouanée en faisant la charité, on va en parler, ou la philanthropie, et ce n'était pas les associations, finalement. Bon, après, il y a les associations, bien sûr, mais quelque part, c'est le même rôle.
Oui, mais sauf que là, ce que j'imagine, enfin, pour moi, c'est vraiment rentabiliser tout un secteur qui, pour l'instant, n'était pas rentable. C'est-à-dire que les crèches, les EHPAD, etc., on peut trouver des marges de rentabilité. Mais là, comment rendre rentable quelqu'un qui a la rue et qui sort de prison et à qui on va dire, bon, bah, lui, si j'arrive à lui faire baisser le taux de récidive de 10%, bah, ça me rapporte de l'argent. C'est ça, l'investissement à impact social. C'est rendre rentable tout un champ qui jusque-là échappait totalement.
Quand on fait rentable, c'est que ça coûte moins d'argent au public. C'est un peu ça l'idée aussi, je pense.
Non, parce que c'est tout le mécanisme. C'est-à-dire que, alors, c'est ce que disent les tenants, ceux qui défendent ces outils-là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État ne paye pas tout de suite. C'est un peu les systèmes partenariats public-privé. C'est-à-dire qu'il ne paye pas tout de suite. Il ne paye que si le programme marche au résultat.
Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, dans le cadre de la protection de l'enfance, comme ça coûte moins cher de laisser un enfant à domicile que de le placer en foyer, il y aura des contrats à impact social sur le maintien à domicile d'enfants qui devraient être placés. Donc il y a un biais aussi chez les éducateurs, vraiment placés. Voilà. Donc, parce que ça va coûter moins cher à la société de garder à domicile les enfants. C'est dans le sens d'économie, là, que je voulais parler.
Ben, c'est exactement. C'est comme ça que c'est prévu.
Voilà.
L'enjeu des impacts sociaux, c'est de dire on peut faire des économies aux collectivités en ayant une action préventive, une action d'une autre forme. Et donc, on va financer le développement d'actions qui permettent au territoire de gagner de l'argent. Et c'est sur cette base-là que le territoire va pouvoir rembourser l'investisseur. Et sur la question des impacts sociaux, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de la contrainte financière, ce que ça pose, c'est vraiment pour les associations, ça pose même une question de démocratie interne. Puisque normalement, dans une association, le seul maître à bord, c'est l'Assemblée Générale, c'est-à-dire l'ensemble des membres qui se réunissent et qui décident de la finalité de l'association, si elle continue, si elle arrête, si elle fait ça ou ça. Là, en se mettant sur des fonds à impact sociaux, c'est une agence externe de consultants qui va définir des indicateurs qui vont être la règle pendant 3 ans, et c'est ces indicateurs-là qui vont fixer la règle interne de l'association pendant toute la durée du terme. Donc on peut se demander, c'est des sommes tellement importantes, ça prend une part tellement importante dans cette structure-là, à un moment donné, quelle est la liberté réelle de l'association à décider par elle-même de son action, puisqu'elle est soumise à des indicateurs qui lui ont été imposés par un financeur extérieur et un le consultant.
Ça, c'est dans le cadre de fonds démocratiquement, impact social. Les fonds impact social, c'est encore autre chose.
Ouais.
C'est encore un autre. Mais ça, c'est effectivement dans le cadre de contrats impact social.
Juste, je me permets d'intervenir parce qu'il y a des personnes qui ont levé la main il y a un moment et il n'y a pas de distribution de la parole qui prend en compte ces temps. Voilà, donc, voilà. C'est pas mon cas, mais je le fais. Voilà, je le fais pour les personnes qui ont levé la main. Je pense qu'il y avait Marion, il y avait Eric à un moment. Je ne sais pas si c'est votre prise de parole est toujours d'actualité, mais
Eric, il a parlé. Marion,
il n'y avait pas.
Oui, il y a de nouveau quelqu'un, je
ne sais pas. Ouais, Eric a relevé la main, mais
après Marion, après Marion.
Ouais. Du coup, là, je vais rebondir aussi, parce que je pense qu'effectivement, c'est important de distinguer l'impact social des contrats impact sociaux, qui quand même, sont un mécanisme quand même particulier, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit mélange. Et même dans les contrats impact sociaux, effectivement, les associations ne décident pas elles-mêmes des indicateurs seules, mais elles y participent quand même aux délibérations.
Oui,
il y a quand même, faut quand même, je pense que c'est quand même un peu de nuance à apporter, même si c'est plaisant de tirer dessus ce type de contrat, forcément, mais il y a quand même quelques nuances, je pense, à apporter. Moi, en fait, je voulais juste rebondir sur l'histoire des philanthropes. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, si on remonte à l'origine des philanthropes, en fait, c'est aux États-Unis qui s'est développé la philanthropie à l'origine. Et pourquoi ça s'est développé aux États-Unis? Parce que les associations n'existaient pas aux États-Unis. De base, en fait, on a, dès les années 70, même avant ça, en fait, on a pallié le manque d'associations par l'existence de ces philanthropes qui dédient une partie de leur profit à l'action caritative, mais en faisant des profits par ailleurs. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces philanthropes américains ont développé toutes ces notions autour de l'impact social, tout ça, et finalement, ça migre petit à petit vers l'Europe, notamment par le Royaume-Uni, puis vers la France. Et du coup, cette logique philanthropique qui se développe en France par les valeurs de l'impact social, entre autres, hein, ou par l'investissement dans l'impact social, et que si on remonte aux origines de cette philanthropie, c'est vraiment remplacer les associations aux États-Unis. Du coup, c'est pas anodin qu'il y ait des philanthropes de plus en plus présents en France, et c'est quand même une dynamique de fond intéressante à souligner.
Bien, on va essayer de.
Bien avant. Ben oui. Charité, c'était bien avant, Eric.
C'est pour
sauf
ça.
Que, sauf que, en fait, le. Pardon.
Non.
C'était un mot.
C'est pas grave, parce que ce que je sais, c'est que chaque fois que quelqu'un prend la parole, il y a peut-être des interactions et des émotions ou des idées qui viennent à partir de ce qui a été soulevé, et alors que je voulais un peu déplacer le curseur, tout en revenant quand même sur la notion de philanthropie, j'invite tout le monde à lire un des derniers papiers qui a lieu dans le monde diplomatique de ce mois-ci, de décembre, puisqu'il y a un très bon article sur la philanthropie de Bill Gates, effectivement, en Afrique. Pourquoi ? Parce que ce qu'on montre, c'est que Bill Gates va participer à un mouvement qui va être à l'encontre des cultures vivrières sur le territoire africain, et qu'il va faciliter dans tout l'argent qu'il a mis, et on parle en centaines de millions de dollars, voire de milliards, sur l'agriculture et le modèle intensif. Par exemple, dans l'argent qu'il a donné, il a donné de l'argent qui est allé aux semenciers style Monsanto, pour que les semences, effectivement, soient plus performantes, adaptées au sol africain, etc. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu sur la philanthropie de Bill Gates, a priori, que 20% qui soient allés directement au développement local, communautaire et vivrier, et 80% effectivement sur un environnement favorable, effectivement, à l'agriculture intensive. Dit comme ça, ça permet de revisiter la question de l'engagement des Bill Gates, en sachant que par ailleurs, idéologiquement, entièrement d'accord avec vous, on est sur quelque chose de l'ordre du la philanthropie remplace l'associative effectivement par culture, par idéologie.
Non, je disais le CAC avait fait une soirée justement sur un livre, mais je ne retrouve plus le nom de l'auteur. Justement sur cette logique philanthropique et peut-être d'ouvrir de nouveaux marchés.
Oui, c'était Boris Martin, c'est ça ? Adieu l'humanitaire, non, c'est pas ça ?
C'est pas ça.
Mais il y avait eu ça, au CAC. Voilà, il y avait eu au CAC. C'est ça.
Est-ce qu'il y a encore... Oui, pardon.
Juste pour terminer sur la philanthropie. C'est vrai que la philanthropie actuelle, elle vient des États-Unis, mais ça va beaucoup plus loin, parce que la charité au Moyen-Âge et après, c'était une forme de philanthropie. Sauf que En fait, il n'y avait pas un placement dans les paradis fiscaux, mais il y avait le salut là-haut. Donc, on refaisait la charité pour pouvoir être assuré, effectivement, d'avoir une place au paradis. Il y a ce côté-là aussi. Et donc, il y a un côté, en fait, quelque part, on en revient là. Mais moi, je suis d'accord, effectivement, avec ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, la différence actuellement, c'est que quand même, ça risque, le contrat de pacte social, là, ça remet en cause la structure associative elle-même, avec cette notion de démocratie. C'est vrai qu'il y a un retour en arrière par rapport à ce qui était avant.
Et on est sur un territoire où la charité...
C'est quoi ton tour? Bien.
Je
termine.
Oui, des fois...
Il y a peut-être quelqu'un que j'ai pas vu.
Oui, si je vous en prie, j'ai déjà beaucoup parlé.
Ouais. Je me suis aperçu quelquefois, bon, contrat d'impact, etc. Là, on parle mesure d'impact social, et des fois, on parle de mesure d'impact. J'ai peur que ça soit, à un moment donné, que de l'impact, quoi. Hein, et le social, il va disparaître, hein, dans ce que l'on va voir arriver, quoi, avec tout ce qu'on vient de dire, ce sera une mesure d'impact. Social, c'est pour.
Oui, moi, je me permets d'intervenir, hein, pour vous dire qu'il ne reste plus qu'une demi-heure et on pourrait peut-être parler des contre-modèles. Nous, à la PES, on ne travaille pas sur un contre-modèle, mais notre objectif, c'est vraiment de valoriser les pratiques de tous nos adhérents. Il y en a ici parmi la table qui font vivre le monde de demain, dès aujourd'hui, par des logiques très, très intelligentes. Et aussi le fait de repenser les modèles économiques avec une société, une entreprise, une SIC, une ASSO, une SCI, des montages très, très intelligents. Et moi, je suis persuadé, en tout cas, que c'est en passant par les réseaux. Genre, là, je cite la PES parce que je fais partie de la PES, mais ça passe aussi par la CRES, ça passe partout, par toutes ces logiques, en tout cas par tous les réseaux. Et le fait de faire masse et de pousser la coopération, enfin, moi, c'est mon dada, la coopération pour écarter la concurrence, je suis persuadé qu'on arrivera à faire masse, quoi. Ou au moins à se réapproprier nos mots, MOTS, pour parler d'économie avec nos propres mots. Et faire corps. Parce que si on n'arrive pas à faire corps, si on n'arrive pas à valoriser ce qu'on fait, si on n'arrive pas à peut-être pas crier aussi fort, mais presque qu'un monde capitaliste, on n'y arrivera pas.
Alors, c'est bien, tu as fait la transition, parce qu'en fait, c'était un peu la dernière partie de notre atelier. C'était maintenant, parce que c'était constat et solution, on a fait beaucoup de constats sur. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se saisit de cette question? Au cas qu'on on est en train de monter un observatoire citoyen de la marchandisation de l'action associative et des investissements à impact social. Voilà, on est une quinzaine d'associations à porter cette construction d'un observatoire qui permettrait à la fois de faire une veille d'informations, mais qui aussi pourrait essayer de penser effectivement des contre-modèles ou essayer de suivre par exemple la comptabilité CARE pour essayer de voir comment on peut se ressaisir de toutes ces questions d'évaluation d'une autre manière que celle qu'on propose via la mesure de l'impact social. Et vous avez raison, le contrat à impact social, maintenant on ne l'appelle plus contrat à impact social, on l'appelle contrat à impact, parce que ça ne concerne plus que le social, mais aussi l'écologie et la culture. Voilà. Donc, effectivement, le social...
Ça verra autre chose.
Donc, voilà ce qu'on... Et dans cet observatoire, on a aussi l'idée de justement travailler sur la question des mots, de voir comment on peut se réapproprier certains mots et reprendre, leur redonner un sens associatif. Voilà, donc ça, c'est une des propositions qu'on met sur la table, mais effectivement, on peut consacrer cette dernière demi-heure à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut penser comme contre-proposition, comme organisation collective, pour essayer de faire face transfrontalière.
Sur l'État, l'observatoire, c'est déjà une réponse. derrière.
Oui.
Moi, je fais partie d'un projet qui s'appelle le Toit commun, c'est une maison d'économie solidaire à Lens, pas très loin d'ici.
Le Toit commun.
Le Toit commun, oui. C'est dans lequel il y a des associations, des coopératives. Et alors justement, une des questions qu'on se pose, sur lesquelles on essaie d'avancer, dans nos réseaux de l'économie sociale et solidaire, on met beaucoup l'accent sur le fait que nos organisations devraient ou ont à se tourner vers l'économie classique, traditionnelle, capitaliste, je ne sais pas comment l'appeler, ordinaire. Ordinaire alors que nous on serait extraordinaire, c'est ça. Nous on essaie de creuser un autre sillon, justement, c'est dans quelle mesure nos organisations, donc associatives, mais pas que, hein, associatives, coopératives, hein, nos organisations d'économie sociale et solidaire, pourraient se tourner d'une manière générale dans deux directions. Première direction, le monde du travail, et notamment les travailleuses et travailleurs, les syndicats, les organisations de travailleurs. Première direction. Et deuxième direction, les collectifs et organisations militantes, ou les mouvements militants. Ça aurait pu être les Gilets jaunes, ça aurait pu être... ce matin, on a évoqué MeToo, les ZAD. Chez nous, par exemple, on a la CIMAD. La CIMAD, c'est vraiment une organisation sur la question des migrations, sur la question de l'abolition des frontières. On a aussi l'association Au Secours 62. C'est une association qui, d'un côté, se bat pour la protection de la ressource en eau, mais de l'autre, pour enlever la gestion de l'eau des mains des capitalistes tels Veolia, la SOR, Suez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce type de sillon à creuser en direction d'autres que l'économie classique? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, on a ce débat chez nous en interne, mais en tout cas vers d'autres mouvements militants, syndicaux, collectifs engagés, etc. Oui, je disais après, c'est ça qui m'a fait.
Je veux rebondir sur ce monsieur de manière plus intellectuelle. Pour être franc, j'en arrive aux mêmes conclusions sur mon secteur. Alors après, je n'aurais pas la prétention de dire que ça peut être généralisé, mais j'écarterais même encore un tout petit peu plus, parce que c'est ce que j'ai essayé d'exprimer, mais j'ai du mal à exprimer. Je ne suis pas habitué à cet exercice, hein, je le fais de manière totalement nouvelle, on va dire. Pour moi, en fait, le souci, je suis très content d'être ici, en plus, il y a tellement de choses qui sont faites que je ne faisais plus vous donner de la tête. Mais il manque encore quelque chose, c'est le champ militant, certes, mais militant aussi politique. C'est que si on regarde l'état de la France et du bien commun qui est censé être notre capital à nous, on est attaqué partout. C'est-à-dire que le journalisme, c'est censé être le contre-pouvoir au service du peuple à la base, on en est très loin. Les universités, c'est censé être la possibilité pour le prolétaire d'arriver aux études supérieures et de ne pas laisser ça à la bourgeoisie. On en est très loin. L'hôpital, c'est censé appartenir à tous, c'est régulièrement réattaqué avec la vérification à l'acte, avec le fait de faire payer aux urgences, avec beaucoup de mesures comme ça qui font qu'en fait ça va devenir de moins en moins accessible au plus commun des mortels, on va dire. Et en fait, tous les secteurs d'activité sont attaqués. L'éducation nationale aussi, on est en train d'en faire le champ du libéralisme en donnant tout le plein pouvoir au directeur. Donc à quel moment tous ces combats en fait ne sont pas qu'un seul combat? Celui, en fait, et je le disais ce matin, mais vivre ensemble, apparemment, c'était un peu trop galvaudé, mais de notre capacité physique, en fait, à maintenir un contrat social qui nous rassemble. Parce que pour moi, c'est ça qui est attaqué à l'heure actuelle. C'est ce contrat social qui disait, en fait, que la société n'existait simplement que pour éviter qu'on se tape dessus en permanence, en fait. Et donc, devait remettre un peu de justesse et de justice dans nos rapports de puissance et d'économie pour que tout le monde mange. Parce que, en fait, si tout le monde ne mange pas, après, ben, c'est l'insurrection. À la base, le contrat social, c'était pour éviter que les paysans, en fait, débarquent à Paris et foutre le feu partout. Et donc, à quel moment on n'est pas là à l'heure actuelle? Et à quel moment on a encore le temps de se battre chacun dans nos quartiers? Je dois avouer que moi, j'ai pas arrêté de le dire, mais j'ai l'impression d'appartenir à aucun monde, en fait. Mais je suis partout parce que, enfin, sur mon secteur, j'essaie de créer... Je suis désolé, il n'y a pas de prosélytisme politique, parce que pouvez me reprendre individuellement, vous verrez que je ne suis pas du tout partisan. Par contre, pour moi, le symbole politique qui a le plus représenté la multiplicité des luttes, c'est la LUPS, qui n'est qu'un accord électoral, mais au niveau militant, en fait, ça représente quelque chose. Parce que là où on se retrouvait, nous, dans nos cartes assez spécifiques, on se retrouvait tout en manifestation, mais sans mot d'ordre de nos organisations, avec les syndicats aussi et tout, d'un coup, on s'est retrouvé sous un mot d'ordre commun. Ou même les syndicats ont appelé un peu discrètement, parce qu'ils ne peuvent pas trop le faire officiellement normalement, à venir militer dans la structure, etc. Et on s'est retrouvé en petit nombre, parce que tout le monde n'est pas venu. Par contre, on avait tout le monde. Et donc, je pense que vraiment ce champ du bien commun et du tiers-état, en fait, c'est ça qu'on nous a enlevé. C'est l'idée de ce qui nous appartient à tous. Et vraiment, en fait, le dénominateur commun qui permet en fait, de parler à peu près tous de nos problèmes spécifiques, mais sous une volonté commune d'arranger les choses.
Oui, c'est tout bon, ça revient du tout. Parce que la question c'est, que tu disais, c'était les contre-modèles, etc. Un petit peu, mais je rebondis un peu sur l'observatoire. Si l'observatoire existe, ça veut dire qu'on va développer une expertise. On va savoir de ce que l'on parle, les avantages, les inconvénients, partir sur le fait qu'attendez, c'est pas si mieux blanc que ça, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un plaidoyer à faire à la suite de ça qui pourrait être utilisé, par exemple, au sein des associations des maires de France. Par exemple, aller voir les élus, faire un pas plus dans notre engagement, hein, qui reste un engagement associatif et militant aussi, hein, mais qui, alors, au niveau politique, chacun, effectivement. Mais je pense qu'il faut aller aussi jusque-là. Et on va se dire, bah non, ils ne vont pas nous écouter. C'est pas sûr. Si l'expertise, elle est là, elle est construite. Moi, je pense qu'il y a... Je dis les maires parce que... bon, ça peut être l'Assemblée nationale, si on veut. Mais les élus, c'est les maires représentent, je dirais, tous nos territoires. Et là-dessus, ils sont peut-être capables d'avoir entendu parler que ça existe et puis à se demander si vraiment c'est une réussite. Quoi. Mmh. Voilà. Et en toute, je dirais, présentation non partisane, je ne sais pas comment on peut dire. Mais effectivement, ça... De donner des chiffres, quoi, déjà eu. Quoi, hein. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Allez jusque-là. Je crois qu'il y a peut-être moyen, on ne sait pas si c'est le rôle du CAC, etc., mais ça serait drôlement bien, je trouve. Je fais du plaidoyer là-dessus. Là.
Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, je pense qu'il y a déjà beaucoup de maires qui se posent des questions. Ah, et dans certains conseils départementaux ont bloqué certains.
Je vais faire très court, mais nous, dans cette logique de valorisation là, on travaille à l'échelle régionale et on sent les énergies de partout. Enfin, moi, mon job, c'est d'être au contact de tout le monde et on sent les énergies de partout, aussi bien les associations de fait que les organisations beaucoup plus établies. Et pour parler de nouveaux modèles, on se rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus des ce qu'on appelle les communeurs. Alors, j'envoie la balle à nos amis framasoft, mais les acteurs des communs bouleversent complètement les modèles économiques. Nous, on essaye là de travailler justement sur la mise en place d'actions qui seraient versées à des pots communs, les budgets collaboratifs, etc., etc. C'est des choses, en tout cas, de manière personnelle, la PES, on n'a pas encore vraiment statué là-dessus, mais dans lesquelles je crois. Et en fait, le bien commun est partout et ils ont des outils de dingue.
Mais c'est les anti-institutionnels aussi, enfin, au niveau outil démocratique, c'est absolument hallucinant ce qui est fait en fait et ce qui est prospérant en termes d'expérimentation, sans forcément de contenu derrière, malheureusement, ou du contenu très interne. Mais il y a des choses à diffuser qui sont folles. Et je pense que j'ai beaucoup d'expérience pour vous là-dedans, mais je vous rejoins.
Si je peux juste me permettre par rapport à la création d'expertise, ce que j'ai oublié de dire dans cet observatoire citoyen, c'est que c'est non seulement des associations qui portent, mais c'est aussi l'idée d'allier des chercheurs, c'est-à-dire de faire un croisement des savoirs, associations-chercheurs, et de créer un espace justement pour construire une expertise commune, si elle, voilà. En tout cas pour créer un espace où elle peut émerger. Voilà. C'était madame, et ensuite...
Je voulais rebondir sur ce que disait Julien.
Juste pour mettre un peu en démon l'expertise des experts et des maires de France, je cite un exemple. Dans la région d'ici, à Léquin, il y a l'aéroport, on veut l'étendre. Donc il y y a une association qui s'est créée, enfin, plusieurs associations, vous connaissez peut-être, NADA, etc. Donc il y a eu donc, une consultation citoyenne, si on peut dire, où les gens ont émis effectivement leurs idées sur est-ce qu'on doit l'agrandir ou pas. Il y a une majorité de gens qui sont contre. Les maires ont été contre. Il y a eu plein de, disons, d'expertise. Alors après, il y a eu des experts. Hein, une fois que les gens ont été consultés, il y a eu une commission d'experts. Et la commission d'experts, malgré ce qui avait été donné effectivement dans la consultation, a dit qu'il était d'accord pour l'agrandissement de l'aéroport. Alors que la majorité des maires du coin qui étaient consultés avaient dit non. Donc il y a, au niveau de l'expertise, bon, il y a expertise et expertise. Hein, comme,
ça dépend ce qu'on entend.
Ça dépend. Voilà. C'est des experts qui devaient effectivement là, statuer sur la nécessité ou pas d'agrandir l'aéroport, etc.
Je reviens sur ce que disait Julien, et c'est vrai que par rapport à quelle solution, on se sent assez oppressé finalement de ce qui revient. Comment s'émanciper d'un système, etc. Et ce que je disais à l'instant avec ces communs, etc., je pense qu'on a une clé. C'est aussi se sortir de cette logique capitaliste de s'approprier. Et finalement, c'est exactement ça. À partir du moment où on se désapproprie, nous, on est en train de monter un système, j'ai commencé par me désapproprier de ma maison et de l'offrir au bien commun. Et à partir de là, en fait, il y en a d'autres, y compris dans le monde économique, dans des entreprises qui sont censées être rentables, qui nous donnent du temps, des services gratuits, etc. Et on se rend compte qu'il y a une autre action que celle du profit et du capital, mais ça passe par se désapproprier à chaque fois, en fait, on est sur une économie de la propriété, peut-être que c'est là une des clés pour changer un peu de modèle, c'est de changer de ça. Mais,
ma remarque va peut-être être un peu en décalage, mais du coup, on fréquente, alors pour le coup, on fréquente beaucoup le milieu des communs, et à côté, on fréquente aussi beaucoup le milieu associatif, mais plutôt parce que ce sont les bénéficiaires de ce qu'on leur propose. Et moi, j'ai l'impression que cette culture critique du monde associatif et des enjeux, elle est finalement très très peu commune. Voilà, et qu'il y a très peu de savoir, je reviens avec la casquette éducation populaire de Framasoft, qu'aujourd'hui, enfin voilà, les associations qu'on rencontre, elles ne sont absolument pas conscientes de tous ces enjeux-là, et je me pose la question du coup de comment un observatoire voilà, peut ruisseler dans les... non mais vraiment quoi, voilà, il faut vraiment que du coup ça ruisselle à tous les niveaux, et en fait, du plus gros au plus petit quoi. Et j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas du tout un système de coopération associative aujourd'hui qui permet ça. Je suis désolée, du coup, ça n'apporte pas de solution. Non, mais on pourrait penser à un système. Ça fait réagir Eric, je crois.
Oui, parce que s'il faut... la chose sur laquelle revenir, c'est que avant que Marianne reprenne, il y a quelque temps, la question de cet observatoire, il y avait eu toute une histoire dans le CAC, un peu interrompue par la crise Covid, mais il y a depuis quelques années, c'était l'ancien président Jean-Claude Boile qui avait lancé l'attention et l'alerte autour de cette question des contrats à impact, et puis donc on est dans une phase de relance. Je pense que quand on dit observatoire, c'est le mot générique, c'est le mot initial. Mais à l'intérieur même de cet observatoire et des quelques petites réunions qui ont pu avoir lieu depuis qu'effectivement on a une animatrice dédiée, hein, puisque l'une de tes missions, c'est effectivement cette animation. Donc c'est déjà, tu vois, une identification par le CAC d'un de ses axes prioritaires. Et je pense qu'il y a trois mots-clés. Il y a expertise, et il faut de l'expertise, en tout cas, de développer une compréhension de ce phénomène-là. Il y a un plaidoyer, et tu en parlais effectivement avec justesse, mais je pense qu'il y a aussi une mobilisation. Hein. Voilà, expertise, plaidoyer, mobilisation. Pour l'instant, on en est conscient, on se redit aussi, une fois ou l'autre, ne serait-ce que l'intermédiaire, de Gilles, le président du CAC, qui a quelque chose de cet ordre-là et qui est dans l'ADN du CAC, mais on ne l'a pas encore confronté parce qu'on est encore au recueil d'informations. Mais oui, il y a lieu à un moment donné de fédérer des énergies sur cette mobilisation qui peut aller tout basiquement jusqu'à ce qu'il y ait une mobilisation effectivement entre différents mouvements, mais qui est parfois, s'il y a un contrat impact sur une ville ou un département, à avoir des missiles, comme on disait dans l'ancien temps, qui viendraient effectivement aider à la construction d'une résistance. Enfin, il y a quelque chose à construire. Mais on en est encore, je pense, à l'acte 1.
Bruno ?
Oui, je pense qu'au-delà de l'expertise, c'est surtout un enjeu de contre-expertise. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte des grilles de lecture imposées par un système si on veut lutter contre ce système. Donc, je pense notamment, par exemple, sur les questions d'évaluation. Aujourd'hui, on est embarqué dans des évaluations quantitatives uniquement. Il faut recréer de l'évaluation différente. Je pense au récit, par exemple, développé à la PES, les récits de territoire, les récits d'initiative, etc. C'est très important de remettre de la qualité. Je pense aussi qu'on a besoin beaucoup s'appuyer sur la recherche-action parce qu'on doit pouvoir évaluer les solutions qui marchent. Et par exemple, on l'a vu là sur les EHPAD, on en parlait tout à l'heure, les EHPAD, ils sont passés pour grosse partie dans le champ privé sur des arguments de rentabilité, d'efficacité, etc. Résultat, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs qui est sortie et qui a été regardée, les services rendus dans le privé et dans le non lucratif, et puis qui ont montré que la qualité était du côté du non lucratif. Donc on voit bien que si nous on produit notre propre expertise, si on analyse aussi les choses de notre point de vue, on peut produire un contre-discours qui est assez intéressant. Donc il y a aussi ce côté recherche-action.
Moi, c'est par rapport à l'intervention. C'est Eric, c'est ça ?
Oui. Oui.
Par rapport à l'intervention d'Eric sur les mobilisations. Moi, je dois dire que. Enfin, moi, je fais partie d'une association à Lens, hein, le Micro Rebelle, la voix de radio. Je fais partie du lab, le lieu autogéré. Moi, je suis venu ici, à cette université d'été, pour ça. On m'a dit, pour voir dans quelle mesure, sur un territoire qui serait le Bassin-Mini ou une région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, il y a moyen de mener des luttes sur les questions qu'on aborde ici, les questions, les financements, le managérialisme, la dépossession des associations. Enfin, moi, c'est vraiment je pense que c'est dans les luttes, dans les mobilisations, en faisant raison entre nous, Julien l'a évoqué, enfin, mais de manière très concrète, quoi, autrement dit, sortir du fait qu'on veut nous mettre en concurrence, enfin, essayer de trouver des solutions très, très précises, très, très matérielles, très concrètes, pour nous rassembler avec nos désaccords, avec les conflits qu'il peut y avoir entre nous, ça c'est absolument pas gênant, mais pour avancer sur ces questions-là, et puis être visible et être une vraie force, enfin, une vraie force en termes de nombre, en termes de, d'impact, cette fois-ci, concret, quoi. Moi, c'est vraiment... m'a venu ici, on s'est réparti dans plusieurs commissions avec les autres collègues et camarades, c'est pour ça, pour voir dans quelle mesure on peut faire, c'est très activiste hein, comme démarche, mais moi, c'est ça qui me semble important.
Je rebondis juste comme ça, parce qu'il y avait un exemple, alors je ne saurais plus, parce que c'était il y a longtemps, et je ne sais plus sur quel territoire, mais je me souviens en tout cas de tout un territoire qui avait... s'était mis, qui avait discuté entre associations pour refuser de manière unanime un appel à projet. Et ils s'étaient tous mis d'accord pour le refuser collectivement. Et du coup, l'appel à projet, il tombe vraiment à l'eau. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser différemment les choses. Parce que, voilà, l'État, mine de rien, il a quand même vachement besoin du travail des associations. Je ne me souviens plus sur quel territoire, mais ça peut être des modalités de lutte qui peuvent être vachement intéressantes, il me semble.
Et au-delà d'initiatives comme celle-là, c'est l'idée de faire une espèce de front entre associations, entre collectifs, sur ces questions je reprends les quatre ateliers, quoi, les libertés associatives, la marchandisation, le managérialisme, enfin, etc. Quoi. Mm-hmm. Tout le monde dit qu'on commence à constituer une force sur ces aspects-là.
Merci.
dans la région de France, on devait signer le 1er juillet, il y a un regroupement. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin. Non, mais c'est sur la question de résister des fois. Donc, la charte d'engagement réciproque, tu vois, la région, on a entendu parler. Donc, conseil régional, représentant régional de l'État et le mouvement associatif Hauts-de-France. Donc, ça fait des années que c'est dans les tuyaux, et ça y est, 1er juillet 2022, on l'a signé. Sauf que le nouveau préfet de région a fait rajouter un paragraphe sur le contrat d'engagement républicain. Dans la charte d'engagement réciproque. On a dit, ça n'a pas trop sa place, d'autant que le chapeau, c'est dans le respect des lois en vigueur. Donc, non-signature, et tous les représentants de l'État, les DDVA, des départements, ont été interdits de venir. Alors que c'est eux qui œuvrent avec nous, vraiment, pour le coup, on a des militants. Donc tu vois, non, mais résister, puis voilà, tout de suite, ça se tend, interdiction aux agents de venir. Tout un travail de collaboration de ces agents-là, en plus, de longue haleine, qui sur la volonté d'une personne. Donc voilà, tu vois, les convois, ils sont vite. Ah, il y a qui sont besoin. Ouais, voilà.
C'est intéressant. Je sais pas si t'avais
suivi.
Je
vais
excusez mon arrivée en retard, parce qu'en fait, je suis en retard parce que je vous ai parlé un peu plus tôt, parce que je viens de passer justement une heure et quart avec une association avec laquelle on essaye de s'assembler potentiellement pour répondre à un appel d'offres, puisque une activité historique qui est portée par l'AMRES, qui est le Conseil Info Énergie, le Conseil FER, le conseil qui invite et qui accompagne les gens dans la rénovation de leur maison. En fait, la métropole européenne de Lille vient de décider de passer cette activité au marché. Et donc, ce n'était pas le cas jusque-là, c'était 20 ans que ça existe par des financements publics croisés. Et donc, face à cette transformation de la modalité de faire, la résistance qu'on est en train de réfléchir à peut-être organiser, ce n'est pas une résistance, c'est une soumission au passage au marché, mais de se dire, on rencontre Habitat Humanisme, la CLCV, des AMO, pour se dire on peut constituer parce qu'on est fondé, on s'appuie sur des valeurs, et potentiellement on a une capacité à répondre à quelque chose. Mais en fait, en vrai, le truc, enfin, parmi les choses tout à fait insatisfaisantes, on en parlait au CA de jeudi, mais c'est pas une résistance au fait que ça passe au marché, c'est d'essayer de s'adapter à répondre au marché. Ça faisait partie de toutes les questions qui sont posées ici pour se dire est-ce que c'est la voie véritablement qu'il nous faut suivre, parce que ça reste l'action en tant que telle, elle a du sens d'accompagner des gens dans leurs travaux de rénovation énergétique face aux enjeux et de le faire dans un lieu comme celui-ci qui va permettre aux citoyens de venir et d'être mis en contact avec d'autres associations sans plus d'avoir d'autres lieux d'engagement. Mais vrai, je ne sais pas vous dire encore parce que on est un peu dans ce chemin de travail qui doit être rendu pendant 10 jours là en fait un marché pour 5 ans qui doit être rendu pendant 10 jours donc c'est un truc qui est en fait un passage comme ça au marché qui arrive de façon complètement accélérée. D'ailleurs, pour le coup, pour la petite histoire, la métropole européenne de Lille devance au moins 24 mois ce qui va s'imposer au niveau national. Enfin bref. Et en fait, c'est un truc qui est assez fou. Parce que ça fait sens. Mais derrière tout ça, l'une des questions pour avoir échangé hier avec une asso cousine, je dirais, Alizée, en Pays de Loire, s'il y en a de l'Ouest, là, Alizée, eux, en fait, ils sont des cousins de l'AMRES, qui portent des conseils info-énergie depuis 30 ans, depuis 20 ans aussi, sur tous les territoires de l'Ouest. Et en fait, là, en 18 mois, ils viennent de doubler leur effectif, passer de 30 à 60, parce qu'en fait, ils s'imposent comme le porteur du service sur le territoire, sur les deux territoires départementaux, avec ce qui les fonde dans leurs valeurs. Mais en même temps, Julien, qui est le directeur avec qui j'avais un échange, il dit, mais quelle difficulté, en fait, à avoir une gouvernance collective, intéressée et citoyenne à ce qui devient une délégation de service public. Et c'est, les gens sont, enfin, ils portent les choses avec des valeurs, mais ils sont alors, ils sont tiraillés dans l'idée, on a tout le temps défendu qu'il fallait faire plus, accompagner plus fort, et donc autant que ce soit nous qui le fassions. Mais bordel de merde, comme c'est chiant de gérer une délégation de service public. Et donc, le CA, il est assez dépeuplé, il n'y a pas grand monde pour vouloir se colter. Enfin voilà, je trouve que c'est plein de tiraillements, quoi. Enfin, en tout cas, je trouve que la réponse, elle n'est pas la réponse, elle n'est pas binaire, en tout cas. Et voilà, donc c'est une actualité que je partage ici.
Et donc, c'est pour mettre le point final à notre atelier. C'est des exemples très, très concrets de comment, comment tout ça tiraille. Et alors, ce que je voulais vous proposer, c'était de mettre votre adresse mail si vous voulez être informé de la suite de cet observatoire. Et puis aussi, pour que je vous envoie un compte-rendu avec... Je vais retravailler aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder un peu toutes les réponses sur le tableau, mais je vous l'enverrai en compte-rendu. Voilà. Et alors, si quelqu'un veut bien remplir la page synthèse de cet atelier, et voilà. Et puis, on va partir en balade pour bouger un peu.
Merci. D'entrer dans la thèse collective. Ouais.
Maria, est-ce que tu sais si on peut laisser nos valises ici? Est-ce qu'après l'apéro, on repasse ici en fait?
Oui, parce qu'on va avoir le
spectacle, c'est ici. Je ne me souvenais pas, c'est pour ça que je peux mettre.
Ah, moi je l'ai fait pour moi, ou pour l'assaut, en général je la partage à l'assaut. Dans l'assaut.
À l'assaut.
Non, non, à la
alors, rien, voilà. Que je les
emprunte. Oui, je n'ai pas noté, mais j'ai pas noté. Oui, mais j'ai pas noté.
Oui, mais je n'ai pas noté. 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 Je n'ai